Bâle, Copenhague, Kiruna, Stockholm.
Abham guzre, dunya guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end en Eurasie. Attention, attention, on atterrit, on vous a quitté hier, vous vous souvenez peut-être, au-delà du cercle polaire, et on se retrouve, eh bien nous, on n'a pas bougé, non, pour cette deuxième étape, pour ce deuxième petit bout de week-end eurasiatique sur la première. Alors on se retrouve au-delà du cercle polaire, on est à Kiruna, dans le grand, grand, grand nord, et puis on va vous parler de plein de choses aujourd'hui. Mais ce voyage, qu'est-ce qu'il va l'être? On est au grand nord, après on va partir sur l'est, on va partir sur l'Asie, des endroits où il fera plus chaud.
Ce voyage va encore continuer 8 semaines, ce sera tous les week-ends, le samedi et le dimanche, de 16h à 17h.
Det går mer sig rakiskt runt och kärn. Går gätan alltid. Samma kärn med många gätan. Går gätan då kärn.
Avec cette voix que vous entendez, nous entrons dans le territoire lapon, car il s'agit d'un petit poème samais que nous vous offrons comme entrée.
Moi, si on reste assez longtemps, moi j'ai envie d'apprendre le lapon. Ça servira à rien, c'est plus pour plaisir, mais j'ai envie. Sinon, les lapons, je les vois au travail, c'est des gens comme tous les autres. Les quelques musées lapons, on les a visités, et ceux qu'on n'a pas encore visités, on le fera prochainement. Donc, c'est tout.
Nous sommes donc à Kiruna. En face de nous, il y a Valérie, il y a Emmanuel. Qui êtes-vous exactement, Valérie et Emmanuel?
Comme vous le savez, je suis française et depuis peu à Kiruna, en fait. Donc c'est une ville que j'avais pu connaître quand mon ami a fait ses études à l'Uléo. On avait fait une balade jusqu'à Narvik et j'ai découvert en tout cas personnellement la Suède comme ça. Et c'est vrai que c'était un souhait de revenir ici. Et bon, c'est toujours le travail qui le permet ou pas. Et donc par chance, on a pu arriver grâce au travail ici. Alors mon nom entier c'est Valérie Pitot-Jacquet, et puis pour longtemps normalement, si tout va bien. Et mon âge 26 ans et 27 cette année.
Mon nom à moi complet c'est Emmanuel Henry, c'est pas trop compliqué. En plus ça peut sonner suédois, j'ai 25 ans. Donc je suis ingénieur minier, je suis venu ici à Kiruna, c'était une opportunité de revenir en Suède alors que j'étais au Canada, au Québec, et que j'étudiais dans le domaine minier. Kiruna c'est l'une des mines les plus grosses et les plus modernes du monde, donc pour moi c'était une vraie opportunité. Et en fait j'ai pas eu beaucoup de choix non plus sur les autres offres d'emploi, comme ma future femme voulait préférer venir en Suède qu'au Québec ou au Canada en général. Ça se présentait bien.
Qu'est-ce que ça vous fait d'habiter dans cette ville où il fait si froid l'hiver et où il fera très chaud cet été avec plein de moustiques?
Non, grand froid, je crois qu'on s'y habitue. Pour les grands froids, de moins 40, là par contre, je connais pas.
Alors par contre, je connais, on s'y fait bien, on s'y fait très bien. C'est mon troisième hiver polaire aussi. Et puis, entre ici et le Québec. Et en fait, il n'y a aucun problème d'acclimatation. C'est plus facile de se protéger contre le froid qu'contre le chaud.
Ouais.
Et au niveau de l'hiver, la lumière, les 2 mois d'absence de lumière à Kiruna, à quoi ça ressemble?
Ça ressemble quand on travaille les 2 heures de jour sous terre, qu'on voit pas le jour du tout. C'est encore exotique pour moi. Peut-être que ça sera plus peut-être dans quelques années, mais c'est ça.
Par rapport à la ville elle-même, Kiruna, qu'est-ce que vous aimez dans cette ville? Qu'est-ce qui vous fait rester dans cette ville en dehors du travail et...
Le calme. Hey, on n'entend rien du tout. Non, en fait, c'est ça, c'est vraiment la sensation d'être au calme sans stress. Plus travaillant dans la grande distribution, enfin, côté stress, c'est bon, quoi, il y a ce qu'il faut. Et là, c'est arrivé dans un pays complètement paisible où les gens sont, enfin, apparaissent en tout cas pas du tout stressés. Et c'est avec une tranquillité d'esprit, vous pouvez vous balader à n'importe quand du jour de la nuit. Hein. Et puis, faut reconnaître aussi, c'est sympa le paysage.
Le cadre, d'une part, et effectivement la sécurité. Aucun problème. On va avoir un enfant, j'ai pas envie d'avoir peur qu'il se fasse racketter quand il sort de l'école. J'ai pas envie d'être emmerdé par les gens non plus. Les gens sont ici, sont très respectueux des autres. Respectueux, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, Je crois que c'est le mot le plus important.
Je crois que c'est ça surtout, en fait, c'est le respect des personnes.
Combien de temps vous pensez vivre ici? Est-ce que justement c'est un emploi à long terme, ce travail dans la mine?
Ça pourrait être un emploi à long terme éventuellement si la crise en Asie se calmait. Pour l'instant, là, ils parlent d'arrêter toutes les embauches pendant 3 ans. Ce qui fait que là, dans quelques mois, là, mon contrat est arrivé à sa fin. Et là, j'ai un gros doute sur notre futur.
Mais a priori, notre souhait, c'est quand même de rester ici. Quelques années. Pas forcément à long terme, mais c'est, enfin, dans notre optique, on... Ce qu'on voudrait quand même, c'est essayer de découvrir un petit peu le monde comme ça. Donc 2-3 ans, peut-être jusqu'à 5 ans, ça serait bien ici. Et puis après, essayer de migrer ailleurs pour essayer de découvrir aussi bien d'autres pays, d'autres mentalités, d'autres façons de penser. Un peu notre optique de vie pour le moment, ça changera peut-être.
My name is Annette Nia.
Mon nom est Annette Nia. J'ai 28 ans. Ma mère vient de Sapporo, mon père de
l'Aurskog.
Mon nom complet est Hans-Olof Utsi. J'ai 30 ans et je viens d'une petite ville qui s'appelle
Metajärvi. That's situated northeast from Kiruna.
Au nord-est de Kiruna.
And I live and work in Kiruna.
Et je vis et travaille à Kiruna comme photographe. Et aussi comme producteur de films. Je fais beaucoup de choses, toutes les choses que je trouve chouettes à faire. Je viens de finir un travail pour le théâtre en tant qu'actrice, qui a duré 6 mois. On a tourné en Scandinavie, principalement dans les villages. Et j'écris des scénarios pour le théâtre et le cinéma.
Non, je connais l'histoire lapone. c'est amusant de dire aux gens quand j'appelle mes parents, dire que voilà, je suis en Laponie. C'est plus exotique que dire la Suède. C'est tout.
Aujourd'hui sur Radio Suisse Romande La Première, on entre sur le territoire Sapmi. Comme vous venez l'entendre, il y a deux façons d'appréhender ce Grand Nord. Il y a le point de vue suédois, représenté par Valérie Emmanuel, pour qui le Grand Nord, eh bien, c'est les paysages, c'est la sécurité, c'est la mine.
Et de l'exotisme aussi.
Et de l'exotisme, exactement. Et puis, il y a le point de vue samais, représenté par Annette et Antsoulov, qui ont toujours vécu ici. Et puis, on peut se demander, Samet, Sapmi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, exactement?
Mais en fait, c'est vraiment révélateur, justement, de ces deux points de vue. Samet, ça veut dire Lapon, et puis le Sapmi, ça veut dire la Laponie. Il y a encore l'adjectif Sami, c'est-à-dire qui appartient au Lapon. Alors, c'est vrai que Lapon, c'est devenu très, très péjoratif, là-bas, dans le Grand Nord. C'est comme parler des Indiens pour parler de toutes les ethnies, de tous les Amérindiens d'Amérique du Sud et du Nord, ou de parler simplement des aborigènes, ou de ces grands termes en fait génériques pour tous ces peuples autochtones qui revendiquent aujourd'hui leur identité, qui revendiquent leur tradition, qui revendiquent leur religion. Alors on va désormais parler des Samets et du Sapmi. Alors les Samets, c'est 70 000 personnes qui habitent dans un territoire partagé, déchiré entre quatre pays, entre la Russie, la Finlande, la Norvège, la Suède. La Suède, c'est juste avant la Norvège. Et puis ils sont tous autour du cercle polaire, dans la région septentrionale, et puis ils voyagent de l'un à l'autre. En tout cas, ils voyageaient. Avant, ils étaient nomades. Donc ils partaient comme ça des plaines russes pour aller jusqu'au bord de la mer en Norvège, vers les fjords. Et puis depuis la séparation des États, eh bien, on a essayé de les sédentariser. On a essayé de dire, vous allez à tel endroit, vous bougez plus. Alors ça a dépeuplé ce peuple. Et puis ça a été difficile aussi parce qu'ils sont basés sur l'élevage du renne, mais ça on en parlera plus tard. Alors comment suivre les animaux quand on n'a plus le droit de sortir du pays? Et puis maintenant aussi, il y a tout un retour à la tradition. C'est des gens qui parlaient une langue, c'est une langue différente. Et puis la dernière génération l'a oubliée.
Mais est-ce qu'ils l'apprennent à l'école, cette langue?
Alors justement, longtemps, elle a été interdite. Elle a été interdite par les Suédois, qui voyaient là une façon de devenir indépendant, de devenir différent. Alors ils ont interdit cette langue, comme ils ont interdit beaucoup de choses. Et puis petit à petit, c'est des droits, après des luttes, après des efforts très très grands, de pouvoir récupérer justement cette culture. Et puis maintenant, eh bien, il y a du monde qui commence à retrouver cette langue ou retrouver la culture.
C'est vrai, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, Annette est quelqu'un en fait qui essaie de retourner à ses sources. Donc on l'a entendu dire qu'elle faisait du théâtre, qu'elle écrivait des scénarios. Et en fait, elle travaille entièrement sur la culture, la tradition samet. Donc elle essaie de réutiliser des mythes qu'elle a entendus dans son enfance. Mais comme elle le dit elle-même, elle ne veut pas refaire vivre une tradition qui serait morte, mais réadapter ses mythes à la réalité quotidienne d'aujourd'hui des Samets.
Et puis elle fait aussi un gros travail sur la religion. Les Samets donc sont un peuple chamanique et c'est très intéressant parce que il n'y a plus rien de totalement réel, hein. Tout a été détruit dès l'arrivée du christianisme au 18e siècle. Mais elle va commencer à réinventer ou réadapter. Enfin, je ne sais pas comment tu la trouves, elle est costumée déjà très bizarrement, quoi. Elle va mettre plein de gris-gris autour du cou et puis elle va essayer de discuter avec les vieux fantômes durant ses nuits et ses cauchemars. Vous écoutez la première, nous sommes sur le cercle polaire à Kiruna. Et si on doit parler du peuple samé, du peuple lapon, on doit absolument parler aussi de la Suède.
Ici, dans ce magasin d'État, j'ai le numéro 497. J'attends mon tour pour pouvoir demander le vin que j'ai choisi dans des vitrines auparavant qui ont des numéros et où on voit en fait, c'est marqué à chaque fois sur l'étiquette que j'ai choisi. Par exemple, c'est le numéro 3665, cuvée Frédéric.
Il faut décrire le système Bolaget, que le magasin d'État où on peut acheter de l'alcool en Suède, une sorte de guichet un peu d'information de gare, où on prend son numéro, on attend son tour. Et puis, ben voilà, là, on devra, je pense, présenter notre carte d'identité pour pouvoir avoir le vin demandé.
I would like the wine cuvée Frédéric.
Cuvée Frédéric, one bottle.
Yeah.
Anything else?
No. Oh, okay.
Petit portrait de Kiruna, la glacière.
Quand on arrive par la gare, c'est très impressionnant parce que c'est une toute petite ville avec plein de petites maisons de toutes les couleurs, plutôt jaune, rouge, vert, qui s'étalent.
Et puis de la neige, hein, tout est blanc, des tonnes de neige, 1 mètre, 1 mètre 50 comme ça à plat, avec des petites bosses dans les coins, c'est la mine. C'est ça qui est incroyable, il y a la ville, puis d'un côté il y a la mine, de l'autre côté il y a l'ancienne et il y a des passages de l'un à l'autre, des camions, des routes, des autoroutes, très profond sous la mine, mais ça on en reparlera plus tard.
Kiruna, c'est un tout petit centre, minuscule, avec une place. Sur cette place, il y a plein de sculptures en glace. C'est assez impressionnant parce qu'il ne fait jamais au-dessus de zéro. Donc ça reste toujours bien dur. Et au milieu de cette ville, donc, il y a un supermarché, une poste, le
système Bolaget,
où on peut acheter de l'alcool. Et les gens arrivent, ont mitouflé jusqu'aux quatre coins de leur corps et évoluent dans la ville.
Quand tu dis petit, ça reste une ville de taille moyenne. Mais cette impression très archaïque de ville, très démodée, dépassée.
C'est peut-être aussi parce qu'on marche peu dans cette ville, comme il fait très froid et qu'il y a beaucoup de neige. Moi j'ai l'impression que ça tasse aussi les distances. On a l'impression que tout le monde vit dans son coin, dans sa maison, dans sa petite maison où il y a à chaque fois la fenêtre éclairée sur l'extérieur, avec les grosses voitures devant chaque maison. Et puis ces murs de neige qui séparent tout le monde, on a l'impression que justement c'est comme un village qui s'étendrait sur plusieurs kilomètres. Or c'est vrai que c'est une ville et je pense que certainement toi qui connais la vie de l'été, elle est plus vivante et on a l'impression peut-être de la prendre plus à bras le corps en la vivant à pied tout le temps, en la parcourant, en allant dans les bistrots, en allant peut-être dans les restaurants. Alors que là il y a finalement peu de contact avec les lieux qui seraient les lieux de sociabilité de la ville, parce que c'est l'hiver et qu'on reste plutôt enfermé chez soi. On mange tôt aussi le soir à Kiruna.
On s'en mitoufle, on fait 10 mètres pour sortir et prendre la voiture. Mmh. On va au supermarché et on rentre chez soi. Ouais.
Et la lumière aussi. Là, je trouve que cet hiver-là, de voir Kiruna sous la neige, c'était une lumière magnifique quand il faisait beau. Cette lumière bleutée, très pâle, un bleu vraiment très pâle qui tombe vers le blanc et qui illumine comme ça toute la ville.
Et ça c'est pendant la journée, puis le matin donc vers 5-6 heures lorsque la lumière se lève et qui est paraît-il exactement la même lumière que celle qu'on trouve durant l'hiver nordique, c'est-à-dire en décembre, janvier, pendant une demi-heure, une heure, il y a une lueur comme ça, le soleil pendant 8 semaines ne se lève pas au-delà de l'horizon, mais pendant une à deux heures on voit cette heure bleue. Qu'ils appellent l'heure bleue, cette heure où toutes les ombres se figent et deviennent toutes bleutées.
Yeah. Valtaan. Mulleen julkistaan. Oh, täällä se tie vaan. Takalo. Kuoran jolkis peltetaan nohkan kamaraan. Lääse vuolteta leen. Peänkan juoskan leikku kole arvaan. Ton mun rapas kierain sihkastaan. Ja te mun tuolmastaan, tanto arna kuului manan joko vehe.
Fred et Julie sur la première.
Ambiance, ambiance. On est dans la voiture ce matin. On s'est préparé pendant près de 2 heures. Frédéric et moi portons des chaussures samées en peau de renne avec des petits rubans de couleur. Et aujourd'hui, la lumière est somptueuse sur Kiruna. Tout est lumineux, il y a un soleil, il fait moins 13. Et nous partons pour...
Nikolokta.
Voilà.
Of course you can. Ask the question, how can you live here?
Bien sûr, me, tu peux te poser la question, comment est-ce qu'on peut vivre ici? Pour moi, c'est évident. C'est un endroit incroyable pour vivre.
If
Par exemple, je travaille beaucoup avec la nature en tant que photographe. Bref, c'est vraiment un bel endroit pour vivre. C'est très simple. Kiruna est le centre de la Terre.
Annette, tu dis que c'est le centre de la Terre, mais quel genre de centre de la Terre est-ce que c'est? C'est ce sorte de pays où il fait nuit 4 mois par année, cet étrange pays si loin de tout. Et puis, lorsqu'il fait moins 40, vous trouvez qu'il fait beau?
Not telling the truth.
Tu ne dis pas la vérité.
You have wrong eyes. It is not so beautiful.
C'est peut-être pas si beau dans la ville, mais il se passe beaucoup de choses.
It's easy to come to Kiruna.
C'est facile de venir à Kiruna. C'est proche de tout. Pas si loin de la Suisse, finalement. C'est juste que quand tu viens d'une grande ville, tu n'as pas l'habitude de faire de si grands trajets. Par exemple, on pense que c'est plus loin de venir de Suisse à Kiruna que de Kiruna à Lausanne. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Il y a beaucoup d'échanges avec la Norvège et puis avec d'autres cultures. Kiruna est vraiment une petite ville. Il y a peut-être seulement 18 000 personnes qui vivent au centre, et dans toute la commune, 24
000.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à Kiruna pour toutes sortes de raisons. Pour le centre spatial, pour voyager dans le Grand Nord.
It's really a melting pot up here in the north.
Jag gillar punchen och hans punchige far.
Skål.
Men vänta, Cirkus 2000 gick mötet i Seibach på.
Annette et Antsoulov, comme on vient de l'entendre, ceux qu'on vient d'entendre, sont à l'image de cette ville, entre la culture samet et la culture suédoise. D'ailleurs, si on les regarde bien, eh bien, si on regarde leurs pieds plutôt, eh bien... Ah, j'arrive pas. Je fais refrain. Annette et Antsoulov sont à l'image de cette ville, entre la culture suédoise et la culture samet. Au pied, ils ont des chaussures samet avec des petits rubans et puis de la peau de renne. Et puis, à la main, ils ont un portable, un fax. Ce sont des gens très modernes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde n'est pas comme ça dans cette ville. Et d'ailleurs, on a entendu les chants. Qu'est-ce que c'est, Fred ?
Alors ça, c'est la vision peut-être ancestrale des Suédois installés à Kiruna. Alors aujourd'hui, ben, on a laissé Julie, on a laissé Annette, et puis avec Antsoulov, on est monté dans son gros 4x4 énorme. On a traversé la ville comme ça, parce que là maintenant, on est en plein hiver, on est en mars. On a traversé la ville et puis on est arrivé dans une petite maison, dans un petit quartier, une petite porte, et là s'ouvrait la table ronde, the round table de Kiruna. Là sont réunis l'élite. Les plus grands, les plus importants personnages de la ville, mais ayant, attention, moins de 40 ans. Ils sont réunis pour parler, pour boire, pour manger. Ils sont 6, 7, 8, c'est eux qui s'appellent l'élite, hein, parce que moi j'ai vu des gens un peu bourrés, en train de faire des gros gags un peu cochons, mais ça c'est un point de vue purement personnel et subjectif. Enfin, tout ça pour dire que j'ai appartenu tout d'un coup ce soir-là à l'élite. Alors, ils ont chanté, comme vous avez pu entendre, et puis ils se sont présentés aussi.
Okay, my name is Torbjörn Nilsson and I live in a small village 10 kilometers outside Kiruna. It's called Kaupinen and I work for a Swedish-Swiss company called ASEA Brown Boveri. It's a very big company, but we are only three persons up here in Kiruna. And I work with the computers and automation in the mine. And I have no girlfriend, no wife, no kids, but I have 13 dogs, which I use for dog sledging.
Voilà, donc cet homme s'est présenté. Il a, comme vous avez pu entendre, beaucoup, beaucoup de chiens, à défaut d'avoir de femmes, de bonnes amies ou quoi que ce soit d'autre. Il travaille pour une compagnie suisso-suédoise tout là-bas dans le nord. Et puis, il est une de ces personnes invitées ce jour-là, justement, ou membre ce jour-là de la table ronde.
Hans Olof, qui va chaque semaine à ces tables rondes, est très fier en fait d'assister, d'appartenir à cette élite de la ville de Kiruna. Et c'est certain que lors de ces réunions, il ne parle surtout pas de son origine, sa mère. À ce moment-là, il est suédois et seulement suédois. Alors moi, je me suis posé la question en regardant ces tables rondes qui existent partout dans le monde, c'est évident. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait des tables rondes à Kiruna, qui est une ville aussi très samée et où, à mon avis, il n'y a pas de table ronde samée? Et puis, j'ai vu qu'en regardant l'histoire de Kiruna, on se rend compte qu'il y a toute une tradition déjà de l'élite kirunienne, si l'on peut dire. Parce que donc la ville a été fondée en 1902, parce qu'ils ont trouvé du fer, ils ont donc construit une énorme mine, après ils ont construit un train, et donc en construisant un train, et ben, y a des gens qui ont pu monter en fait jusqu'à ce grand nord qui était réservé à ces sortes d'Indiens du nord, on pourrait dire, les Samets, donc que les Suédois ne connaissaient pas du tout. Et donc, avec ce train, est venu le directeur de la mine, qui était un homme vraiment féru de culture, et qui a donc amené avec lui toute l'élite suédoise, une grande partie de l'élite culturelle suédoise. De ce fait, c'est une ville qui est devenue très culturelle. Il y a plusieurs théâtres, il y a des cinémas, il y a des salles de spectacle. Et aujourd'hui encore, on ressent en fait cette attraction culturelle. Enfin, en tout cas, Annette le ressent très fort. Nous, on ne l'a pas tellement vu. Et donc, je crois que ces tables rondes, eh ben, elles viennent de cette époque-là.
Thank you.
Anzolov, what is the best things you love here?
Anzolov, qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu habitais à Lausanne, Zurich ou Genève? Qu'est-ce qui ferait que tu serais très très triste de quitter cet endroit?
C'est la combinaison de cet incroyable espace que nous avons. Il y a de la place pour tout le monde. La nature n'est pas surpeuplée ici. Et bien sûr, j'adore l'hiver. J'aime le long et froid hiver. Le climat et la nature me manquent.
You want me to answer that too?
Tu veux aussi que je réponde à cette question?
Look at the mountains.
Mais regarde les montagnes. Tu peux comprendre, non?
It is like
et c'est comme ça partout ailleurs dans cette région.
But it's hard to tell on radio how it looks
like. Mais bien sûr, c'est pas facile de raconter à quoi ça ressemble à la radio.
If you're living like in Göteborg or Stockholm,
si tu vis à Göteborg ou Stockholm, au sud, même à Lausanne, vous avez ce sale temps toute l'année. Il pleut l'hiver, peut-être il y a un petit peu de neige, il fait froid parce qu'il y a du vent et que c'est humide. Ici, il fait un temps agréable.
Nice weather.
Anzolov est en train de nous indiquer qu'il fait maintenant moins 18. Plus on va s'enfoncer en fait sur la route, plus il va faire froid certainement.
Là, Anzolov nous indique également sur son cadran super sophistiqué que nous partons plein ouest. Et le paysage est toujours très plat en fait, comme dans toute la Suède, sauf que ici on est tout près du Kebnekaise, qui est le sommet suédois qui culmine à 2111 mètres. Elle apparaît en fait là-bas au fond. Et puis, ce qui veut dire qu'il y a une plaine toute gelée avec ses arbustes. Et puis, voilà, là, je frotte, les vitres sont complètement givrées pour essayer de voir dehors. Autour de nous, c'est de la poudreuse, c'est 2 mètres. En fait, on voit que le haut des arbres, c'est peut-être quelque chose comme 2 mètres de neige, avec quelques traces de snowmobile, c'est-à-dire de scooter des neiges.
Pour cela, nous avons chacun
3 paires de chaussettes, une grosse paire de chaussures en peau de renne fourrée, des pantalons blancs, des collants bleus, une combinaison de ski, un t-shirt, 2 sweatshirts, 2 pulls en laine, 2 vestes, 2 paires de gants, 2 bonnets, dont le dernier est fourré également en poil.
Pour ma part, j'ai un énorme bonnet fourré en poil de lapin, même si c'est pas du lapin, une écharpe, un t-shirt, un sweatshirt, un gros pull en laine, un pull polaire, un anorak, un collant,
une culotte,
un pantalon de ski, des chaussettes en laine et bien sûr aussi des chaussures en peau de renne.
Vous êtes sur la première et là on est monté sur le motoneige. On est l'un derrière l'autre, c'est Julie qui conduit comme une folle. Elle accélère et moi je m'accroche. Alors on commence à traverser un tout petit village, on sort de ce village, on dépasse les quelques habitations, les chiens, les traîneaux. Et puis on arrive dans la campagne comme ça, on cherche pour passer entre les arbres.
Eh, ça s'est arrêté les moteurs. Et puis le paysage est tout autour de nous, tout blanc, tout vide. On est au sommet d'une petite montagne.
Bon, entre-temps, faut dire quand même qu'on a roulé 2 heures. Hein.
On a roulé 2 heures, mais c'est beau, quoi. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus âme qui vive, il n'y a pas une maison à 100 km à la ronde. Il n'y a rien, qu'un plateau et de la neige et des petits arbustes.
Ah oui, regarde là-bas derrière, il y a juste derrière la colline. Je passe de tes lunettes.
J'ai pas mes lunettes, mais je sais qu'il y a un petit renne.
On voit deux petits rennes même, l'un derrière l'autre, perdus justement sur cette glace, marchant comme ça. C'est une montagne très très pelée aussi. C'est ça que je trouve très beau. C'est qu'en bas il y a des sapins, et des arbres, et des bouleaux. Et puis les collines comme ça, c'est comme des ventres de femmes, tout rond, tout pelé.
Et puis moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il y a le soleil qui tape en fait sur le sommet de cette petite montagne, et on pourrait croire qu'il fait chaud, quoi, qu'on peut s'arrêter, et puis que on pourrait même se coucher dans la neige. Et en fait, il fait très 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 froid. Et puis Annette nous dit faites attention, regardez-vous les uns les autres. Si vous voyez que les pommettes elles commencent à être blanches, et ben faut vite se taper les joues pour pas que la pommette elle tombe.
Hey yolo nana lo nana lo ale yolo nana lo yolo hey yolo nana lo nana lo ale yolo nana lo yolo hey yolo lo 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 ale yolo nana lo yolo no pe bai bela yo katin hey yolo nana lo yolo hey yolo nana lo nana lo ale nana lo nana lo yolo hey yolo nana lo nana lo ale nana lo nana lo yolo hey yolo lo 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 ale nana lo nana lo yolo kule kap nas la yo kartin ana nana lo yolo hey yolo lo 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 ale yolo nana lo yolo mana su pustalle kartin ana nana lo nana lo yolo hey yolo lo 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 ale yolo nana lo yolo.
Ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est un yoik, et un yoik, c'est un chant traditionnel du Sapmi, de la Laponie. C'est une sorte de yodel, comme on a ici, mais sauf que là-bas, ça sert à parler à d'autres personnes à distance. Enfin, ça sert à exprimer une sorte d'impression qu'on a au cœur, de parler à un renne, de parler à une femme, de parler à des enfants. Et puis, d'abord, là, on a entendu donc un yoik qu'on a enregistré avec Christophe Chamartin, un vieux pote, il y a longtemps. On l'a enregistré, c'était Lars Anders Kummenen. Et puis, juste maintenant, Charlotta Berglund.
Komura dit al deta oh como vai mudal choco kul dal mukal ton dal vel samineida oh le lo le lo lai lu muchal mio daston shada hai ki oinot oh le lo le lo lai lu vaikidon le muskal vekka kohki neret ho le lo le lo lai lu ho komura ti tal deta ho komu vai mudal choku tu kalmon pere ko vasto lainan ho oile lo le lo lai lu inge mai te de ko vasto pesa no ainet ho oile lo le lo lai lu pade mo lu sana pade mo lu sa
Y a-t-il une littérature samée, Annette?
Yeah, it is a tradition. Not so,
oui,
it
was enfin, not il y avait. So many who could write. Rien so qu'on puisse écrire, plutôt une tradition orale autour du quotidien samé. C'est un genre de poésie sur la nature, qui raconte comment elle est.
It's short. It's like
souvent de forme courte, des mots courts sur des sensations.
What you feel, about the reindeers and
à propos des rennes ou ce que tu peux ressentir pour les arbres, ce que tu désires, sur la solitude, enfin des réflexions sur ce genre de thème. Il y a des livres pour enfants qui sont presque toujours des histoires traditionnelles. Comme par exemple, pourquoi l'ours n'a plus de longue queue ? Ou pourquoi les animaux ne vivent plus tous ensemble ? Ou pourquoi le chien est devenu le meilleur ami de l'homme ? Ce genre de choses vraiment concrètes. Andrew est ce genre de vieil homme qui raconte ce qu'il a vu. Par exemple, un jour, il raconte, un jour, j'étais dehors dans la forêt et soudain, j'ai rencontré un loup. C'était vraiment étrange, car nous sommes restés à nous regarder l'un et l'autre un long moment. Ce loup était vraiment gros. J'en avais jamais vu de pareil jusque-là. Puis il a continué son chemin et moi le mien. Et on ne s'est plus jamais revu. C'est ce genre d'histoire en fait.
We never saw each other again, and that's the story. If you talk about the most beautiful word a Sami person could say, it should be about the reindeers. It's Muello, or Poatu, or the name of your most nice reindeer, like Peio, Bjelka.
Vous écoutez la première avec Fred et Julie.
Pour Annette, le plus beau mot de la langue samée va être celui qu'on va donner à son renne, le plus beau aussi. Parce que le renne a une place prédominante dans la culture samée. C'est un véritable mythe, il fait partie de l'imaginaire et de la réalité des samées. Alors, à quoi ça ressemble la renne ? Moi, j'en ai vu pour la première fois durant ce voyage. Mais j'étais un peu déçue parce qu'ils sont tout petits. Ils sont de la taille d'un veau, à peu près. Et puis, ils ont des énormes bois, comme les cerfs. Et là, leur spécificité, c'est que les femelles et les mâles en ont.
Et puis là, les sons qu'on entend, c'est qu'on est au sommet d'une montagne. Et ce fois, c'est l'été. C'est les rassemblements en fait de rennes. Le renne, donc, c'est un animal qui est l'élevage en fait principal des Samés. Chaque famille a un cheptel de 200, 300, 500, 1000, 1500 rennes qui sont en fait lâchés dans la nature. C'est un élevage libre. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont tant de rennes, mais tous ces rennes sont lâchés. Et puis, de temps en temps, 3, 4 fois par année, il faut les réunir. Donc on prend des motoneiges si c'est l'hiver, ou des motos, ou des hélicoptères même, des chiens, l'été, et on essaie de les rassembler, comme ça, de dire « Ah, là, il y en a pas mal qui sont dans telle région. » Alors, en 4 jours, on va les rassembler, les hommes vont partir à moto, et puis ils vont essayer de les pousser, comme ça, en direction d'une falaise, où des barrières sont déjà installées. Et puis là, ils vont les mettre, l'espace d'une journée, dans une sorte d'enclos qui est déjà préparé année après année, à 5 heures de marche de toute route, donc pour aller les rejoindre, il faut marcher. Et puis on arrive là, et depuis, par exemple, 8 heures du matin, les rennes sont enfermées dans cet enclos et tournent en rond. Comme là, ce qu'on entend, c'est 1500 rennes qui tournent, dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, toujours. Et puis là, eh bien, les éleveurs, ils vont les regarder, et ils vont reconnaître à leurs oreilles quelles rennes et à qui ils appartiennent. Chacun, en fait, a une petite marque qui appartient à la famille.
Et qu'est-ce qu'ils en font de ces rennes ?
Ben, ils les regardent, parce qu'ils adorent regarder les rennes. Et puis aussi, surtout, ben, ils vont regarder si, par exemple, il y a une mère et puis on voit un enfant qui suit, eh bien, ils savent que l'enfant, si la mère, c'est la leur, eh bien, l'enfant, il est à eux aussi. Donc, ils vont l'attraper avec des lassos jaunes, rouges, pour se distancier les couleurs de l'un à l'autre. Ils les attrapent et puis ils marquent les oreilles. Et puis, s'il y en a qui sont blessés ou qui vont plus très bien, ils les attrapent aussi.
Mais ils les mangent pas, ces rennes ? Il me semble qu'ils ont tué certains pour avoir de la viande pour
c'est
l'hiver.
Ce que je dis, ceux qui vont pas bien, ils les attrapent, et puis ils les tuent pour les manger.
Juste ceux qui vont pas bien ?
Et ouais. Ou alors juste ce qu'il faut pour que l'équilibre soit respecté. Thank you. Vous écoutez Radio Suisse Romande, la première, et c'est la fin de cette deuxième étape eurasiatique avec Julie Gilbert et Frédéric Chauffat pour la réalisation, derrière la grande vitre Patrick Doram pour la programmation musicale, Carmen Algarada.
Et d'ailleurs, vous avez entendu les albums du Nord rêvé au rêve du Nord, Björk, Vihme, Garbarek et Terra Numa, qui sont des Inuits à la différence des autres.
Et puis, samedi prochain, 16h, eh bien on repart ensemble. On sera toujours à Kiruna, au-delà du cercle polaire, avec les mêmes gens qu'on veut remercier déjà.
Ah oui, on remercie Annette Nia, Antsulaf Utsi et Emmanuel et Valérie Henry pour cette émission.
On va les rejoindre en partie et on vous donne rendez-vous sous la terre, moins 1000 mètres, sous les mines de Kiruna, pour découvrir un autre aspect de cette ville.
Ni lyssna på Radio Suisse, romande la première, au klockan är 5.
Radio Suisse, romande la première, il est 17h.